Bob est désespéré. Sa belle et accorte épouse Anna l'a quitté pour l'infâme Otto. Dans la détresse, il erre par les rues de Sonon et rencontre son vieil ami Léon, qui lui conseille de consulter le célèbre docteur Ed, qui pourra le guérir. Ce que fit Bob. Hélas, Ed n'y pouvait rien. Et Bob, naguère si intelligent, si subtil, perdit totalement pied, négligea son apparence en portant des vêtements élimés. Plaignez-le, plaignez-le. Que dit-il ? L'ami sali, rusé, mal sapé répond. Ed ne perd pas l'âme. Sûr, il a si mal. L'ami sali, rusé, mal sapé répond. Ed ne perd pas l'âme. Sûr, il a si mal.
Voilà tout ce long discours pour introduire un palindrome de Gérard Durand, lu deux fois, ce qui est de la triche. Et on ouvre ainsi, comme à l'accoutumée, Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, un magazine aujourd'hui avec un sommaire tellement dense que je me contenterai d'avoir la mémoire courte et de ne pas vous livrer de « Je me souviens ». Et on va tout de suite... Je vous en donne quelques-uns quand même. Je me souviens des ramettes de papier format A4 ou A3, mais aussi des pochettes canson, raisin, demi-raisin, quart raisin, tout ça dans la salle d'art plastique, de mon temps on disait juste salle de dessin ou de peinture, et même le format Jésus, soleil, colombier affiche, et aussi des in quarto, in octavo, et le célèbre 24-32 qui n'a même pas de nom. Je me souviens qu'il y a 14 feux verts, 6 réparations, 3 pannes d'essence et 4 limitations de vitesse dans un paquet de cartes du Milborne. Je me souviens des soirées de la Ligue d'improvisation française au Bataclan, mais je ne me souviens plus si au Bataclan, le public était autorisé à lancer des pantoufles pour écourter un sketch et demander de passer à l'équipe suivante. Je me souviens de « En avril, ne découvre pas d'une fille, en mai, fais ce qu'il lui plaît et en juin, éternue dans ses foins ». C'était Vincent Jarry. Je me souviens que Jacques Vallée éditait la revue Le Fou Parle et parlait même régulièrement sur Radio Libertaire dans l'émission du même nom, avec Christian Zeimer d'ailleurs, plasticien, auteur de Jésus et ses 10 slips. Je me souviens que j'ai confondu le duo Monsieur et Madame, deux Belges dont Marca, que j'avais déjà interviewé alors qu'il passait au Sentier des Halles, et prenait par téléphone des nouvelles de sa fille Angèle, nouveau-née et pas encore chanteuse. J'ai confondu le duo Monsieur-Madame et Madame-Monsieur, un duo pop qui représenta la France à l'Eurovision. Je me souviens que, même si dans ma vie, j'ai dû traverser plusieurs milliers de couloirs, plus ou moins étroits, plus ou moins bien éclairés, je n'ai jamais titubé sur les murs. Sauf la fois où, justement, les murs du couloir étaient enduits de peinture fraîche et où, justement, je le savais. De même que je n'ai jamais chuté au bord d'un trottoir, sauf la fois où il faisait 30 cm de haut. Je me souviens des dessins de Cabu avec Chirac au salon de l'agriculture, le bras enfoncé dans le cul d'une vache, comme un inséminateur. Allez, et maintenant, on passe au sommaire de notre magazine d'aujourd'hui. Evelyne, je te laisse faire le tour de table, annoncer tout le monde.
Alors, Sophie,
oui,
qui vient dire des textes.
Oui, j'ai apporté des textes sur le thème de l'apparence aujourd'hui, qui sont des sortes de nouvelles.
Ah, d'accord. Ce sont des textes que tu as écrits ?
Oui.
D'accord. Des nouvelles ? Oui, très bien. Alors, Michel Tourte ?
Moi, je suis avec un livre de Jean-Marie Pelt, au cas où. Hein. Enfin, je ne vais pas illustrer mais c'est au cas où.
Au cas où, très bien, parfait.
L'autre, alors, c'est à la guimbarde.
Et moi. Donc, moi, je voulais parler de l'exposition que j'ai vue hier au musée... Quai Branly sur Léopold Senghor. Voilà, et puis j'en dirai quelques mots sur Senghor et ce qu'il a fait, sa poésie. Voilà.
D'accord. Et puis il y a le printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs qui se prépare, non?
J'ai fait la proposition. Maintenant,
d'accord, on verra. Et Anne.
Et Anne de la Leu, de Théâtre Passion. Bonjour à tous et bonne année à tous. Et bon, il y en a peut-être. il faut dire bonne année tout le temps, moi.
Tout le temps.
Ah bon, ah ben, c'est très bonne idée, oui. 2023, j'avais complètement oublié qu'on était en 2023.
Et oui.
Et ça passe trop vite. Et puis moi, alors, moi, je recevrai vers 16h15, hein, pile, n'est-ce pas? Le metteur en scène d'une pièce de Samuel Beckett, fin de partie. Voilà, Jacques Osinski, qui me fera le plaisir de présenter la pièce, et qui d'ailleurs a beaucoup de succès. Hein. C'est avec Denis Lavant et Frédéric Langens, et c'est au joli théâtre de l'Atelier. Voilà. Alors, on commence avec Sophie.
Ok, je vais commencer. Donc aujourd'hui, j'ai apporté donc des textes qui sont des sortes de nouvelles. Le thème que j'ai choisi, c'est l'apparence, comme j'ai dit tout à l'heure. Le premier texte que je vais dire, en fait, s'appelle « Nouvelles des Caraïbes ». Lors de l'émission du 5 novembre, j'avais évoqué un exercice, une commande que je m'étais donnée pour écrire le texte en l'air. À l'époque, je lisais Bret Easton Ellis et j'avais été marquée par sa façon d'écrire. Et j'ai donc écrit ce nouveau texte avec en tête l'imaginaire que m'a suscité Bret Easton Ellis. Rien à foutre. Je fais l'amour, je bois de la bière, je bronze sur la terrasse, je veux me baigner dans l'eau turquoise, je conduis la Jeep, je lis Easton Ellis. Elle m'a filé sa carte. J'ai tiré 100 dollars et j'ai tout claqué. Je mange des bonbons, j'essaie de dormir, je refais l'amour. Rien à foutre. Ma peau est si blanche, je la fais brûler. Le soleil m'assomme. Le vent de la mer des Caraïbes souffle. Je ne fais rien. Je me relâche. J'oublie le reste. Je ne veux pas penser à la suite. Je n'ai pas un rond et je suis considérée comme une princesse. Ici, on consomme ou on sert. On nous met de l'essence. On n'a qu'à s'arrêter au bon endroit et payer. On fait ses courses et quelqu'un s'occupe d'emballer. On paye, c'est tout. L'île est morte. Assassinée par le fric. Rien à foutre des fast-foods. Rien à caguer des casinos. Rien à foutre des latin shows. L'esclavagisme existe toujours. Je suis une salope de gringa avec dans la tête l'image du paradis artificiel, eau turquoise, sable blanc, palmier. Je suis dans un magazine. Ce que je vois vaut des millions. Ces couillons jouent au Monopoly. Ça empeste le fric sale. Ça pue la drogue. Ce n'est pas le paradis, tout est très cher. Il n'y a pas de vie locale. Il n'y a que des joujoux à touristes, des hôtels indécents. L'île est morte. Les Amerlocs et les Dutchies font joujou. Ils boivent de la bière. Trouvent normal d'être traités comme des princes, ils sont en vacances. Parasite. Foutu parasite. Je laisse elle faire. Je le laisse me gâter. Je déteste ça. Je ne vois pas l'intérêt. Ces gens sont vides. Il n'y a rien dedans. Ils sont pleins de billets. Ils sont pauvres. Cette île est abjecte. J'ai nagé au milieu des pélicans. J'ai regardé le sable blanc. J'ai regardé l'eau, sa couleur si parfaite, et j'ai à peine osé y toucher. Des bronzés sont arrivés. Des Américains couleur cannelée et aussitôt, ça a senti mauvais. Sors de ce catalogue, ce n'est pas la réalité. Ils ont tout cassé, il n'y a rien. Que des billets avec écrit dessus « We trust in God ». Les arbres indiquent le sud, il y a urgence de se barrer. Ici, les jeunes Hollandais vigoureux se font embarquer à l'hôtel par des riches et vieilles Américaines cramées et fripées, bourrées d'anxiaux, mortes sous leur fond de teint, leur renobiole. Marqué, des grosses vaches tatouées. Donc voilà, c'était une description de ma vision d'une île qui s'appelle Aruba, qui est une île des Antilles néerlandaises.
D'accord.
Au milieu de l'océan Indien, il y a encore moins l'été, dans le joli pays oreille, pourtant n'a point miracle. Ici, moi, elle est vraiment très bien, moi la trouve mon gars. Mon rogaille, la morue, chérie, qu'elle. Lila n'a pas changé, elle est toujours pareille pour raconter des histoires créoles. Quand Lily Kostrovic, Lily est gay, à cause ça même, Lily est drôle. Me fais attention, ennuie pas Lily trop, Lily n'a pas le temps de discuter. Quand Lily Kostuli cause pas dans son dos, va courant qu'elle sourit. Monsieur Jaco, il peut dire que m'y connaît un ou n'a point de bouc, ici il est plus gentil que ou. Sur la place chaude, nous l'a grandi à côté. Ça m'y fait notre l'amitié. Dans ses cas, il lève tout de suite parce qu'il aime ça qui remue, surtout dans style Maloya. Les meilleurs n'importe quel rumba.
Et oui, moi je vous ai entraîné sur une autre île, même si on y mange le rougail, avec Luc Donna, chanteur réunionnais, interprété ici par Rosemary Stanley dans le cadre du duo avec Dom la Nena, intitulé Birds on the Wire. Et maintenant je lance un dé, celui qui a le courage de se pencher pour le ramasser prend la parole.
Ben, c'est toi, Anna. Alors, c'est même un ordre.
Plaisante. Bon, moi je vous parle d'une pièce que j'ai vue au Théâtre Montparnasse qui s'appelle Une étoile de Isabelle Lenouvel avec Macha Merrill dans le rôle principal. C'est l'histoire d'une ancienne danseuse étoile. Elle déplore que son fils Paul ne vienne pas la voir plus souvent et par miracle, ben, Paul débarque. Alors, les retrouvailles sont un peu fraîches, même très très fraîches. Ils se reprochent des choses les unes des autres. Et en fin de compte, Léna lui dit aussi qu'elle supporte pas son épicier, qu'elle supporte pas sa coiffeuse, que sa voisine Christiane est une emmerdeuse et puis qu'elle arrive plus à s'entendre avec elle non plus. Enfin bref, et Paul trouve des photos dans un vieux carton que Léna a apporté. Et c'est des photos de son père. Son père était compositeur. Et il repense à son père, il a une vénération pour lui, beaucoup plus que pour sa mère. Et sa mère lui annonce aussi qu'un journaliste vient chaque samedi pour faire une nouvelle biographie sur le compositeur en question. Et qui parlera quand même un petit peu d'elle dans les colonnes de son journal. Alors bon, vu comme ça, c'est un petit peu brouillon, mais la pièce est très émouvante, elle est drôle aussi. Et donc, on se demande un peu si on navigue entre le réel, est-ce que Léna dit la vérité, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'imaginaire, est-ce que Paul existe ou pas. Il y a tout ça qui se mélange un petit peu. Donc, la fin, et je ne vous dirai pas, naturellement. Il y a de très beaux intermèdes dansés par une charmante danseuse, Aurélie Loussouarn, qui représentait un petit peu la boîte à musique de Léna que lui avait offerte Paul. Et donc, la chorégraphie a été faite par Sébastien Galeota, qui est un chorégraphe et un comédien qui est très, très talentueux. Donc, il y a aussi beaucoup d'humour avec le journaliste qui est joué par Laurent Dolce, qui vient et qui lui aussi se fait enguirlander par Léna. Bon, il arrivera quand même à faire sa biographie, qui sait. Et puis, donc, le fils est Marc City, qui est un très, très bon comédien aussi. Et donc, les décors, sont de Roger Hart, pas du tout, sont de Catherine Bluval. Et
c'est très...
Elle est la même famille que Marcel Bluval.
C'est sa fille, c'est la fille de Marcel. C'est la fille de Marcel Bluval, oui, oui, tout à fait. Donc, c'est une histoire étrange, romantique. Macha Meryl est touchante.
Ah, Macha Meryl, j'aime bien. Ouais.
Voilà, oui, oui, non, elle est très bien. En plus, j'allais dire, ça ne m'étonne pas que le texte lui ait plu, parce qu'elle est veuve d'un compositeur dans la pièce. Et elle-même, c'était Madame Michel Legrand aussi.
Oui, les dernières années. Hein.
Les dernières
les
années.
Toutes dernières oui. années, voilà. Ouais. D'accord.
Les plus belles, comment dire.
Bon, oui, enfin, si tu veux.
Non, bon, c'est, je trouve. Alors, c'est à 19h en plus. Ça, c'est une, j'aime bien ces horaires-là, moi.
Oui, c'est vrai.
19h. C'est au Théâtre Montparnasse. Donc, c'est, je pense que ça, ça partira pour longtemps encore. Et si j'ai un peu de temps, je vous parlerai aussi de. Est-ce que j'ai le temps de parler d'Albert et Charlie? C'est possible. Toujours au Théâtre Montparnasse. Alors, Albert Einstein, Charlie Chaplin. C'est une comédie de Olivier Dutailly. La mise en scène de Christophe Lidon. Et c'est avec les excellents Daniel Russo, Jean-Pierre Laurie et Elisa Benizio. Donc, ça commence en 1937 à l'université de Princeton. Einstein, il travaille sur le bureau et puis il rouspète, il envoie balader les journaux qu'il lit parce que naturellement, en 1937, les nouvelles d'Europe et d'Allemagne ne sont guère réjouissantes. Il y a la montée du nazisme et donc il est hors de lui. Et il attend son ami Charlie Chaplin. En fin de compte, c'est l'histoire de deux exilés aux États-Unis. Chaplin aussi avait quitté l'Angleterre. Einstein lui avait quitté l'Allemagne parce que, bon, juif aussi, donc il s'est exilé aussi là-bas aux États-Unis. Alors Chaplin vient le trouver parce qu'il voudrait avoir son aval. Il voudrait que Einstein soit d'accord pour parler du nouveau film qu'il va faire sur le dictateur. Et Einstein, lui, n'est pas du tout d'accord. Il trouve qu'on ne doit pas rigoler avec les dictateurs, les tyrans. Donc, il ne veut absolument pas... Il est contre ce film. Bon, il ne se fâche pas trop avec Chaplin, mais quand même. Et plus tard... on tombe en 1947. Et en 47, il y a eu la Hiroshima, la bombe atomique d'Einstein. Lui qui était si humain, si qui ne supportait pas, qui ne supportait pas ni la tyrannie ni quoi que ce soit, malheureusement il n'a pas pu penser que la bombe atomique servirait à faire une tragédie pareille. Donc ça aussi il a du mal à s'en remettre.
Il me semble qu'il le craignait, non ?
Pardon ?
Il me semble qu'il le craignait.
Oui, peut-être, mais il a quand même signé avec le président des États-Unis à l'époque. Oui, c'est vrai, mais bon. Après, on retombe en 52 et Chaplin, là, lui, il décide de fuir les États-Unis avec sa dernière épouse. Et puis, il a eu du mal à imposer le dictateur, mais parce que ça n'a pas été très, très bien reçu aussi à l'époque. Et en plus de ça, il y a eu la chasse aux sorcières aux États-Unis. Donc, Chaplin était en plein dedans. Il a été dénoncé. Donc il s'oblige à partir et enfin c'est une belle histoire sur l'amitié de ces deux hommes et en plus il y a une charmante Elisa Benizio qui est très très drôle aussi qui est la gouvernante suisse-allemande de Einstein. Elle apporte beaucoup de fraîcheur d'humour dans ce contexte là donc c'est aussi une très belle comédie que j'ai bien beaucoup aimée, Albert et Charlie de Olivier Dutailly, au Théâtre Montparnasse à 21h. Voilà.
Ah oui.
Voilà.
Quand Charlot est devenu universellement célèbre, on s'est mis à organiser un petit peu partout des concours de déguisement. Et un jour, Charlie Chaplin lui-même a participé à un concours de Charlot. Il a terminé 3e.
Bon, alors Charlie, quoi de neuf à Hollywood?
Quand Charlot monte sur cette locomotive.
Ah non, Albert, c'est pas Charlot, c'est Buster Keaton.
Ah oui, mais... Quand il s'accroche à cette grande horloge...
Ça, c'est Harold Lloyd. Et je suis pas non plus le maigre tout pâle qu'on voit toujours avec le gros. Ça, c'est Laurel et Hardy.
Fremden! Um par der Raten! Elle est la brica et pâtissa et concocta la citronata.
Dans une dictature, les gens sont gouvernés par la force et le mensonge. Dans une démocratie, uniquement par le mensonge. Une petite vodka? À la santé de l'FBI?
Enfant, je voulais savoir à quoi ressemblerait la lumière si on voyageait assis sur un rayon de soleil.
Apprendre par cœur! Obéir! Jamais!
Vous énervez pas, Albert.
Je me suis toujours occupée de lui le mieux possible. Alors je vous préviens, s'il est fatigué, j'abrège la représentation.
Et voilà, ça c'était la bande-annonce offerte par le Théâtre Montparnasse.
Merci bien.
Il ne faut pas confondre la bande à Charlot et la bande de Charlot.
Oui, puisqu'on est dans la rubrique théâtre, je parlerai juste de deux petites pièces qui sont actuellement au Lucernaire. Il y a La femme qui ne vieillissait pas.
Ah oui, c'est très bien.
Oui, c'est très bien. C'est avec Françoise Cadol. C'est d'après un livre. Donc c'est super parce que... ça raconte effectivement une femme qui ne vieillit pas et toutes les conséquences que ça peut avoir sur son entourage et même psychologiquement sur elle parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle est véritablement et son apparence. Mmh. Alors on croit que c'est très bien de paraître jeune, de paraître d'avoir 30 ans quand on en a 60. Eh bien c'est tout l'art du romancier, enfin c'est adapté pour démontrer que en réalité ça se passe pas bien du tout, mais la comédienne est tellement de féminité, elle exprime vraiment tout le processus que ça peut avoir dans sa tête, le fait de ne pas vieillir justement. Bon, je ne raconte pas là comment elle va s'en sortir, mais c'est une fable qui est assez savoureuse, voilà. Et puis dire justement, mesdames, si vous voulez faire l'économie de votre crème anti-rides,
le lifting,
allez voir ce spectacle. Et puis il y a Ariane Ascaride qui a repris des textes de Bertolt Brecht, c'est intitulé Le bonheur de donner. Bon, c'est pas que Bertolt Brecht soit un philanthrope dur, mais ce sont des textes qui sont assez fort qu'elle a choisi, et puis sur justement les engagements de Bertolt Brecht, quelques-uns qui sont plus poétiques que d'autres, enfin c'est, et puis surtout Ariane Ascaride, elle porte ses textes de façon tellement vigoureuse, tellement avec tellement de force, elle est virile, on peut pas dire le contraire, que ça vaut le déplacement. Voilà. Donc au Lucernaire jusqu'au 12 mars pour La femme qui ne vieillissait pas. Et jusqu'au 5 mars, je crois, mais ce sera repris à Avignon, Le bonheur de donner, d'après les textes de Bertolt Brecht, au Lucernaire.
À 30 ans, je suis devenue un modèle du grand projet photographique de Fabrice, du temps.
Tu garderas précieusement ce chemisier. Je veux celui-là chaque année.
J'ai vu quelque part qu'on ne se voit pas vieillir. On s'observe tous les jours et tous les jours on se voit jeune. À un an, je faisais parfaitement mon âge. Mais ça n'existe pas, ça, Betty, ne pas vieillir. Tout vieillit, mais pas moi. Cette nuit-là, André a posé son index sur mes lèvres. Clic, clac.
C'est extraordinaire. Regarde, c'est le même visage sur les 5 photos.
À 35 ans, ma vie a basculé. Me voilà jeune à l'âge où la jeunesse s'en va. Me voilà rare et curieuse. On devrait étudier comme l'enfant sauvage ou Elephant Man. Je t'en remercie, Odette. 17e photo. Même fond gris perlé, même chemisier blanc, même coiffure, même lèvres entrouvertes. Un miracle se répétait, curieux et fascinant. J'avais 30 ans. Désespérée, j'ai eu envie de crier, de hurler que seuls ceux qui ne durent pas de la valeur. Parce que j'aimais l'idée que le temps passe. Il rend unique ce qu'on a vécu.
Essaie de ne pas sourire. Merci, Betty.
Thank you.
Lucernaire, donc la femme qui ne vieillissait pas, de Grégoire de la Cour, et elle n'aura pas droit au tarif réduit pour les seniors, tant pis pour elle. Moa, à toi.
Alors Moa...
Alors Moa, donc jamais sans sa guimbarde.
Ben voilà.
Et voilà. Et donc, je disais au départ aux auditeurs et auditrices de Radio Libertaire, n'est-ce pas, qu'il y a une exposition absolument à voir au Quai Branly sur Léopold Senghor et les arts. Ça s'appelle Senghor et les arts, réinventer l'universel. Alors donc, Senghor, quelques mots. Léopold Sédar Senghor, donc, qui est né en 1906, n'est-ce pas, a profondément marqué toute l'histoire intellectuelle, bien entendu, culturelle et politique du XXe siècle. Il fut poète, l'un des pionniers de la négritude et président du Sénégal, oui, de 1960 à 1980. Il affirma donc le rôle central de l'Afrique dans l'histoire universelle et promut ses cultures et pratiques artistiques. Donc c'est une exposition qui retrace le parcours de Léopold Senghor, l'évolution de sa pensée, bien entendu, ses interrogations sur la conception occidentale de l'universalité et puis ses réalisations majeures dans le domaine des arts. Donc, festival, exposition, création de lieux décidés, Senghor, place à la culture, au début et à la fin du développement. L'exposition, donc, invite à une véritable redécouverte de la vision de Senghor par une sélection d'œuvres, de photographes, d'archives, de films, d'art, grâce à, bien entendu, à notre ami Jean Gérard Bozio, oui, ancien conseiller auprès de la présidence du Sénégal, et qui a fait donc don d'une grande partie de sa collection au musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2021.
Oui, ça m'énerve qu'on adosse toujours un homme politique. Enfin, bon,
oui, bon.
Je suis tellement fière de l'avoir créé, effectivement.
D'accord. Alors, donc, je continue.
C'est de quelle date à quelle date?
De quelle date à quelle date? Donc c'est du 7 février au 19 novembre 2023.
Ah, voilà. Super, j'aurai le temps d'y aller.
Voilà, elle aura le temps d'y aller, elle dit. Donc, pour continuer à parler de notre ami Senghor, c'est un penseur, poète et président, né donc en 1906, naissance à Joal, au Sénégal. Il reçoit de sa famille Serrère le prénom Sédar, puis lors de son baptême, celui de Léopold. Voilà. 1928, après le petit séminaire de Dakar, ce brillant élève part à Paris et se lie avec Georges Pompidou lors de sa cagne, bien entendu. 1933-35, il cofonde et préside l'association des étudiants ouest-africains et participe à la revue L'étudiant noir. 1935, premier africain à avoir reçu l'agrégation de grammaire. Il est nommé donc au lycée Descartes de Tours. Et donc c'était, on l'appelait, l'étudiant noir. 1936, il écrit ses premiers poèmes sous le choc de l'invasion fasciste et l'Éthiopie, bien entendu. Et 1940, il s'est fait prisonnier de guerre. Il est libéré pour raison médicale 2 ans plus tard et entre dans la résistance. 1945, il est nommé député au Sénégal. Il prône une réforme modérée du système colonial visant l'autonomie plutôt que l'indépendance. Voilà. 1960, après avoir défendu en vain un Commonwealth à la française, il devient le premier président du Sénégal indépendant. 1966, le premier festival mondial des arts nègres de Dakar. incarne la politique culturelle volontariste de Senghor. 1984, donc, 4 ans après s'être démis de ses fonctions de président, il est le premier Africain élu à l'Académie française. Et puis, le 20 décembre 2001, Senghor meurt à Verzon, voilà, dans le Calvados. Ses funérailles ont lieu, bien entendu, à Dakar, son pays de naissance. Voilà.
Tu as oublié qu'il a été ministre dans le gouvernement français avant l'indépendance du Sénégal.
Oui.
Bon, c'est dommage qu'il ne l'ait pas noté.
Enfin bref.
Et figure-toi, moi, mais je l'avais déjà dit ça il y a longtemps. Hein. Tu sais, quand tu avais dit des extraits d'un livre qu'avait écrit ma grand-mère en hommage aux tirailleurs sénégalais, parce que ma grand-mère était marraine de tirailleurs pendant la guerre. 40-45.
Oui.
Donc, j'avais fait republier ces nouvelles. Et dedans, dans le livre de nouvelles, il y a la photo d'une lettre de Léopold Sédar Senghor à ma grand-mère.
D'accord. Oh. Wow.
Parce que.
Heureuse grand-mère.
Il l'avait.
Magnifique.
Elle était contente que ma grand-mère écrive sur les tirailleurs sénégalais.
Alors, un petit aperçu de la poésie de Léopold Sédar Senghor, bien entendu. Eh bien, c'est le tambour qui dit « C'est un vaste village de boue et de branchages, un village crucifié par deux fosses de pestilence, haine et faim, y fermentent dans la torpeur d'un été mortel. C'est un grand village qu'encercle l'immobile hagne de barbelés, un grand village sous la tyrannie de 4 mitrailleuses ombrageuses et les nobles guerriers mendient des bouts de cigarettes. Ils disputent des os, bien entendu, des os de chiens. Ils se disputent chiens et chats, oui. Mais seuls, ils ont gardé la candeur et leur rire et seuls, la liberté de leur âme de feu. Et le soir tombe, sanglots de sang qui libère la nuit. Ils veillent les grands enfants roses, leurs grands-enfants blonds, leurs grands-enfants blancs, qui se tournent et se retournent dans leur sommeil, hantés des puces, du souci et des poux de captivité. Les contes des veillées noires les bercent, et les voix graves qui épousent les sentiers du silence. Et les berceuses doucement, berceuses sans tam-tam, sans battement de mains noires, ils sont là, étendus par les routes captives, le long des routes du désastre. Les sveltes peupliers, les statues des dieux sombres, drapées dans leurs longs manteaux d'or. Les prisonniers sénégalais, ténébreusement allongés sur la terre de France. Écoutez-nous, morts étendus dans l'eau, au profond des plaines du nord et de l'est. Recevez ce sol rouge, sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des blanches hosties. Recevez le statut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Et donc aux tirailleurs sénégalais. Voici le soleil qui fait tendre la poitrine des vierges, qui fait sourire sur les bancs vers les vieillards, qui réveillerait les morts sous une terre maternelle. J'entends le bruit des canons. Est-ce Iroun ? On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. On promet 500 000 de vos enfants à la gloire des futurs morts. Oui, on les remercie d'avance, futurs morts obscurs, dit Schwarzschande. Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire, de la mort, dans votre solitude sans yeux, sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la province, sans même la chaleur de vos camarades couchés, tout contre vous, comme jadis dans la tranchée, jadis dans les palabres du village. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles, sans yeux, dans votre triple enceinte de nuit, nous n'avons pas loué de pleureuses, oui, même pas les larmes de vos femmes anciennes. Donc, nouvelle poésie nègre et malgache. Elle ne se rappelle que vos grands coups de colère, préférant l'ardeur des vivants. les plaintes des pleureuses trop claires, trop vite, asséchez les joues de vos femmes, comme en saison sèche les torrents des foutas. Les larmes les plus chaudes sont trop claires, trop vite bues au coin des lèvres oublieuses. Nous vous apportons, écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous mouriez, nous, dans ces jours de peur sans mémoire, vous apportons l'amitié de vos camarades d'âge. Ah, puissais-je un jour, d'une voix couleur de braise, puissais-je chanter l'amitié des camarades ferventes comme les entrailles et délicates, fortes comme les tendons. Écoutez-nous, morts étendus dans l'eau au profond des plaines du nord et de l'est, recevez ce sol rouge sous le soleil d'été, ce soleil, oui, ce sol rouge du sang des blanches hosties. Recevez le statut de vos camarades noirs tirailleurs sénégalais, morts pour la liberté. Mère, on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage, et je devais être ta fête, la fête gymnique de tes moissons, sa saison belle avec 7 fois 9 années, sans nuages et les greniers pleins à craquer de fin mille. Ton champion, oui, ton champion corse à nous, tel le palmier de Catamague, il domine tous ses rivaux de sa tête en mouvant panache d'argent. Et les cheveux de femmes s'agitent sur leurs épaules et les cœurs de vierges dans le tumulte de leur poitrine. Léopold Sédar Senghor.
Sophie, t'as peut-être le temps de dire le texte le plus court, là ?
Oui. J'ai un texte long et un texte court.
Ouais.
Je vais en revenir sur l'apparence, hein, du coup, et c'est... Une jeune femme... j'ai écrit ce texte quand j'étais très jeune. J'avais 19 ans, je commençais à être modèle. C'est un peu mon bébé, ce texte.
Mais excusez-moi, peut-être que Nicolas a quelque chose à proposer, musical, non ? Ça va.
Et donc, c'est le premier texte que j'ai tapé à l'ordinateur. Je voulais faire une nouvelle et c'est devenu une sorte de poème en prose. Qui s'appelle « Aimer ». 5h du soir. Et toujours cette nuance... Cet univers moelleux et magique de la fin de mes journées. Ces couleurs, cette atmosphère vague, vaporeuse, et cet instant éphémère où, semble-t-il, rien ne peut m'arriver. Je me regarde dans un rayon de soleil. Ma peau mordorée par la lumière fascine mes yeux. Pauvres yeux fatigués et usés de regarder. La peau blanche et fine, les membres fermes, les seins joviaux et les hanches fières. Qui pourrais-je aimer ? Inespéré, je ne puis aimer. Alors je pense au peintre et à son atelier, à toutes ces fées dont je fais partie, à ma vie dans l'atelier. Le peintre et moi nous retrouvons et je suis sa préférée, sa fée. Le temps d'un croquis, d'une pause. Je suis aimée. Le trait court et glisse sur les papiers grumelés. Ses yeux avides cherchent la courbe, le geste, le mouvement, le sens. Chaque pose est racontée par ses traits. Une fesse charnue, un bras relevé, des reins courbés. Je voudrais tant une sculpture. Elles, les autres fées ont été sculptées. Moi aussi j'y aurai droit au moment où moi aussi je suis sa préférée. Le reste du temps est consacré à poudrer, à masser, parfumer ce corps d'albâtre. Et il y a les bains aussi, toujours parfumés. Et cette peau si douce, oh si douce, oh toujours, encore. Je me plais bêtement, elle est si douce. Jamais, toujours, j'aime. Ce n'est pas ça l'amour, je ne suis pas capable d'aimer. Ma vie est consacrée à n'aimer que ce corps qui m'a été confié. Un jour peut-être je saurai. Détachée de ce corps, de mon corps, je pourrai. Le temps passe, pressé. Le corps d'albâtre un jour se fera rattraper. Il sera plissé, défiguré, mitraillé par les ans sans pitié et puis rongé. Mon amour sera rongé, déchiré, arraché peut-être et torturé. Mon corps abîmé. Et lui, il lui restera ses faits. Lui, jamais, Je serai plus forte que la fatalité et je survivrai. Dans un jardin trône une fée. Un artiste avec amour l'a sculptée. Un jour, son modèle préféré avait été retrouvé noyé et il l'avait ressuscité. La peau blanche et fine, les membres fermes, les seins joviaux et les hanches fières. Elle trône pour l'éternité et nargue la fatalité. Voilà.
Merci. Merci.
Radio Libertaire, il est 16h16, dans trois quarts d'heure ça sera Bulle Noire, à moins que ce ne soit Bulle de Rêve, et pour l'instant, ça y est, Michel a choisi sa page, je t'en prie Michel.
Oui, c'est Jean-Marie Pelt, la raison du plus faible, alors un petit extrait. L'homme, dernière invention de l'évolution, alors la place de l'homme. Notre vagabondage dans les quatre règnes du monde vivant, bactéries, champignons, végétaux et animaux, débouche sur la question de l'homme. Qu'en est-il de son appartenance au monde animal ? Faut-il, dès lors qu'il émerge à la conscience, l'installer dans une sorte de cinquième règne ? Les biologistes n'ont pas franchi ce pas, et sans doute n'ont-ils pas tort, puisque notre appartenance au règne animal s'impose à l'évidence. Pas plus que l'ensemble du monde vivant, l'homme n'échappe aux lois universelles de la vie. Se nourrir, se reproduire, communiquer, acquérir un territoire, au besoin le défendre, élever des petits. Et pas plus que dans les autres règnes, il n'est aisé de faire chez lui un départ simpliste entre le fort et le faible. Les ruses, les artifices, les facéties de la vie sont légion dans la nature comme dans la société. Entre parasitisme et symbiose, la frontière reste floue. On l'a vu dans le cas d'amibes parasitées par des bactéries et qui n'a connu dans sa vie des situations de symbiose se dégradant en comportement plus ou moins parasitaire lorsque l'un pompe l'énergie de l'autre. La frontière n'est pas moins floue entre proie et prédateur. Il advient qu'elle s'efface et que les rôles s'inversent. On l'a vu dans les homards et les buccins ou encore pour les temps et les crapauds. Parmi tous les exemples choisis dans la nature, le dualisme simpliste, enfermant une réalité mouvante dans des catégories rigides, est pris en défaut. Ce mode de pensée typiquement occidental tend à établir des barrières entre entités opposées. L'homme et la femme, le patron et l'ouvrier, et naturellement le fort et le faible. En découle une vision strictement hiérarchique de la société, parallèle aux hiérarchies que nous pensons percevoir dans la nature. Nous opposons le prédateur et la proie, les animaux supérieurs complexes et dominants aux animaux inférieurs plus simples et subordonnés, les gros et les petits en pensant que les premiers sont voués à manger les seconds. Ainsi s'établirait dans la nature comme dans la société un rapport de force au profit du plus fort et au détriment du plus faible. Or, tout ce qui précède montre que s'en tenir à de telles simplifications, c'est trahir la réalité subtile et complexe du monde vivant, où force et faiblesse s'interpénètrent dialectiquement, moyennant des surprises et des retournements toujours possibles. On sait combien biologistes et spécialistes en sciences humaines se disent perplexes devant de telles extrapolations de la nature à la société. Est-il raisonnable de réduire l'homme à sa seule dimension animale ? Évidemment non, mais de l'animal, il a reçu un héritage commun à tous les vivants qui l'enracine dans le vase continent de la vie. De là à sombrer dans les excès de la sociobiologie chère à Edward Hobson Wilson, selon laquelle tous les comportements humains seraient déterminés par les gènes, il y a naturellement un grand pas que l'on se gardera de franchir, car l'émergence et la conscience modifient radicalement la donne. Et voilà. Est-ce que je voulais lire ben, c'est la page suivante. Ouais. Et j'ai démarré un peu plus tôt. Alors, où l'on compare Internet aux bactéries. Mais c'est très court. Avec la conscience apparaît chez l'homme un potentiel nouveau, l'interfécondité de ses rencontres avec ses semblables. Il ne s'agit plus simplement d'une interfécondité sexuelle qui ne serait que d'ordre physique. Celle-ci n'est possible, on le sait, qu'avec des êtres de notre espèce et de sexe contraire, par la fusion des gamètes. Cette barrière physique qui sépare les individus tombe dès lors qu'on passe avec l'homme de la sphère charnelle à la sphère psychique, celle où s'échangent les idées. La sphère psychique s'apparente par là davantage au mode d'interfécondité des bactéries qui échangent librement leurs gènes comme nous échangeons librement nos idées. Dès lors, le champ des possibles se dilate à l'infini. Non point qu'entre les hommes et leur culture toutes les barrières soient abolies, on est de droite ou de gauche, croyant ou incroyant, musulman ou chrétien, etc. Mais, à la différence des barrières génétiques, celles-ci peuvent être franchies. Les conversions sont toujours possibles dans les deux sens, ou dépassées par le dialogue et le partage. Telle est la grande nouveauté du règne humain. Cette potentialité propre à l'homme vient littéralement d'exploser sous nos yeux avec l'invasion des moyens modernes de communication. Internet a changé la face du monde. Pour l'humanité commence une nouvelle aventure dont on est en droit d'attendre le meilleur, même si nul ne méconnaît le moins bon dans les excès de toute nature qu'engendre une technologie émergente et invasive, désormais sans limite dans ses possibilités de communiquer. L'homme est à même de partager avec ses semblables ce qu'il a de meilleur. Le village planétaire cher à McLuhan donnerait-il corps à la belle intuition de Teilhard de Chardin qui voyait les monades humaines communier et converger vers un point oméga, symbolisant une humanité unie et réconciliée, s'enrichir spirituellement des rencontres, aimer, partager matériellement et moralement, placer l'autre au cœur de sa vie, tel est le champ des possibles qui s'ouvre à l'homme émergeant à la conscience. Mais force est d'admettre que la société libérale ne facilite pas ce choix et que le chemin à parcourir est encore très long pour s'orienter vers cet objectif qui, avec l'apparition de l'homme, est la nouvelle et peut-être ultime étape de l'évolution biologique.
Notre invité est arrivé. On en parlera après, parce que c'est chacun son tour. Sinon, on n'a plus de temps. Hein.
Non.
Donc, est arrivé dans nos studios Monsieur Jacques Ozensky. J'espère que je prononce bien.
Oui, tout à fait. Bonjour. Voilà,
qui est le metteur en scène de la pièce Fin de partie, qui se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier. Et qui a beaucoup de succès d'ailleurs, hein, d'après toutes les critiques que j'ai lues. Et puis il y a même une prolongation jusqu'au 16 avril ou 26 avril.
Jusqu'au 16 avril.
Voilà. Ouais. Alors moi j'ai vu la pièce, hein. Je dois dire que j'ai vu, c'est pas la première mise en scène, hein, enfin, partie que j'ai vue, parce que j'ai dû avoir l'occasion d'en voir, j'en avais vu une au Théâtre de l'Essaillon, c'était, je sais plus comment il s'appelait le metteur en scène, Jean-Claude, je sais plus, je sais plus exactement, qui m'avait beaucoup plu d'ailleurs, parce que le Théâtre de l'Essaillon c'est un tout petit théâtre, mais... parfois, il y a des super mises en scène. Alors, évidemment, les comédiens n'étaient pas très connus, mais c'est pas grave. Je pense qu'on... Il y a possibilité de faire, d'avoir un regard chaque fois personnel sur une pièce de Samuel Beckett, à mon avis. Hein, parce que j'ai vu, c'est pareil pour La Dernière Bande, j'ai vu votre mise en scène, que j'ai beaucoup aimé aussi, avec Denis Lavant. Et j'en avais vu une autre avec un autre comédien, Jean Petremant. Et j'ai même vu, enfin, j'ai pas vu en entier, La Dernière Bande interprétée par un acteur, le fils de Michel Simon, François Simon.
D'accord.
Ah, il est super aussi. Ouais. Hein, c'est sur Lina, on trouve ça sur Lina. Oui, donc, c'est un univers, Samuel Beckett. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec lui, suivant les metteurs en scène... suivant les comédiens, les interprètes, on peut voyager et chaque fois, c'est comme c'est... Ah, tu t'en vas ? D'accord. c'est un peu comme... un peu comme le du soleil. Le soleil, parfois, il éclaire différemment, etc. On n'a pas toujours la même vision sur une même chose. Voilà. Et donc, fin de partie. Bon, ben alors, j'ai vu comme ça, ici et là, d'après vos précédentes interviews, c'est la pièce que vous préférez de Samuel Beckett.
Ah oui.
Voilà. Parce que vous avez fait tout un parcours avec Samuel Beckett.
Oui, on a commencé il y a 5 ans avec un texte non théâtral qui était Cap aux Pires.
Ça aussi, j'ai vu. Je l'ai vu deux fois.
Ouais.
À Avignon
et à l'Athénée.
Et à l'Athénée. Et on a invité Denis Lavant, d'ailleurs.
Tout à fait. Voilà, ouais. Donc c'était avec Denis Lavant. Et c'était un solo où Denis ne bougeait pas. Il était totalement immobile. Sa pensée était en mouvement.
C'était extrêmement impressionnant. Hein.
Oui, tout à fait.
Ouais.
C'était très radical comme proposition et proche de la performance.
C'est un grand comédien déjà.
Mmh. Au sens plus comme une performance d'art contemporain, quoi.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fallait pas chercher à tout comprendre.
C'est un peu, mais pour les spectateurs aussi, c'est un peu une expérience presque mystique. Enfin, je
complètement,
sais pas.
En tout cas, c'est une expérience.
Parce qu'il est immobile. Hein,
il est totalement immobile et il bouge pas du tout. Le corps intérieurement n'est pas immobile et la pensée pas du tout non plus, heureusement, parce que sinon on ne supporterait pas. Mais c'est très actif, mais en tout cas ça place le spectateur à un endroit très particulier, puisque vous assistez pendant 1h30 à vous êtes face à un corps immobile et vous avez uniquement la voix, quoi, et la bouche qui...
Il y avait beaucoup de silence, je me souviens, dans
voilà,
Cap aux Pires.
Il y avait beaucoup de silence. En tout cas, ça a été une expérience un peu fondamentale, dans le sens où ça nous a orientés ensuite vers le théâtre de Beckett.
Ouais.
Donc d'abord avec La Dernière Bande, qu'on a fait à plusieurs reprises, où il y avait, vous parliez de lectures particulières, je suis d'accord, c'est-à-dire que, en fait... chez Beckett, dans ses pièces, il y a des injonctions de la part de Beckett au niveau des didascalies qui sont très précises. Voilà, donc parfois on dit « Ah, ça veut dire que c'est toujours la même mise en scène et toujours la même interprétation. » Parce que Beckett et les éditions de Minuit ont décidé que ça serait le cas. Et en fait, c'est archi faux.
Ouais.
Dans le sens où, pour moi... En fait, les didascalies de Beckett font partie intégrante de ces pièces. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vraiment tenté de faire avec La Dernière Bande et également avec Fin de Partie. C'est-à-dire se dire que les trois pages de didascalie qui ouvrent La Dernière Bande d'action, elles sont aussi importantes que le texte, que la voix enregistrée. Tout est important.
Donc ça veut dire qu'on a adopté un rythme très particulier, très lent, dans la dernière bande, un tempo plus lent que la tradition, que ce qu'on a vu dans d'autres représentations.
Oui, c'est beaucoup plus souple que voilà. Ce qu'on croit. Oui.
Et pourquoi ? Parce que pour nous, il était face, c'est un homme seul dans sa chambre, donc il n'est pas forcément devant... Alors le paradoxe, c'est qu'évidemment, il est censé être seul, mais il est devant des gens, mais en tout cas, la situation, c'est qu'il est seul. Donc on ne se disait pas, vite, vite, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut qu'on en vienne au texte, parce que les gens vont s'ennuyer, voilà. Au contraire, on posait vraiment les choses, et ça commençait par un très long silence, où Denis regarde les gens, regarde face à lui, donc il y a les spectateurs dans le champ, et ça durait 2-3 minutes, comme ça, de silence, donc c'est vraiment...
Mais c'est ça que j'aime bien au théâtre, c'est que quand même, c'est pas qu'on est marqué... Je vais pas exagérer, mais je suis capable d'exagérer. C'est pas qu'on est marqué au fer rouge,
ouais.
Mais c'est que moi, j'aime bien être, et alors je le dis au sens primaire du terme, être impressionné, c'est-à-dire que je suis marqué. Et j'aime ça, il faut que le théâtre me marque. Si je vais au théâtre pour l'oublier 5 minutes après ou une semaine après, j'ai perdu mon temps, quoi.
Voilà, mais cette expérience-là, elle était vraiment très liée, évidemment, à Beckett, à ces pauses qui sont écrites dans le texte, comme une partition, en fait. Donc il y a des silences, il y a des pauses,
etc. On le ressent bien, oui.
Et donc on a travaillé comme ça et on a poursuivi avec fin de partie.
On va peut-être donner quand même le synopsis de fin de partie.
Ben, fin
en
de partie,
résumé.
C'est, ça se passe donc dans une sorte de, je sais pas, de no man's land, de maison. On est peut-être sur une île en fait, derrière.
Ah oui, parce que
d'un côté il y a la mer, de l'autre côté il y a la terre,
et puis qu'on regarde la mer. Voilà. Ça pourrait être un phare, après tout, pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas, voilà, et donc se trouve, il n'y a plus que deux êtres humains qui sont...
Il y en a quatre, quand même.
Ouais, les alors, deux autres, on ne sait pas, on sait pas. Oui, ils sont là. donc il y a Ham, le personnage qui est dans une chaise roulante et aveugle, et puis Clove, qui est donc son factotum, son valet, son fils adoptif, on ne sait pas trop. Et puis il y a les deux parents effectivement qui sont dans les poubelles, Nell et Nag. Donc on assiste à une journée de vie, enfin de ce qu'il en reste en tout cas, avec Ham et Clove.
Oui, on a l'impression que c'est une journée qui doit se répéter. C'est une journée ordinaire entre guillemets.
Peut-être
ou peut-être pas. Ouais. Mais bon, moi j'ai connu. Enfin, je ne veux pas parler de moi, mais ce genre de situation. Ouais. Ça me fait. Pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire.
Non, mais de toute façon, alors ça, on met l'accent un peu sur une chose intéressante par rapport à Beckett et sur l'actualité de cette pièce, c'est que Beckett, parfois, ça paraît comme quelque chose de très supérieur et de très aride, des très inaccessibles pour le lecteur, pour le spectateur lambda. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est un auteur extrêmement concret, extrêmement humain, très cruel, et que ce n'est pas seulement dans les hautes sphères de la pensée inaccessible destinée à une petite élite qui serait seule à même de le comprendre. Donc ce qu'on redécouvre avec Fin de partie, qui est peut-être une pièce un peu plus accessible que d'autres textes en tout cas, c'est d'une part que c'est une pièce qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Alors d'abord, on a redécouvert des thèmes qui sont peut-être qui réapparaissent sous des jours nouveaux, c'est-à-dire la résonance écologique, la dystopie suite au Covid avec la fin du monde. Tout ça, c'était évidemment plutôt la Seconde Guerre mondiale qui était en question lors de la sortie de la pièce en 57, puisqu'il a quand même traversé en tant que résistant la Seconde Guerre, etc. Donc ça, c'est des thématiques nouvelles, et je pense qu'ils touchent les gens. Et puis évidemment, la question de la fin de vie, qui est quand même abordée de manière de biais, de manière très stylisée, et du choix,
aussi, oui.
Le handicap, le choix à fin de partie, et la fin, ça y est, on y va, etc. Donc, comment... Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas du théâtre psychologique, c'est très stylisé. Donc, mais il y a toutes ces thématiques qui s'entremêlent. Et puis, il y a aussi des couleurs très diverses, c'est-à-dire à la fois des moments très tragiques et comiques. Ça, c'est une lecture ouverte qu'on a laissée volontairement.
Parce que... ouais.
Il y a des mises en scène qui sont beaucoup plus sombres dans la dialectique et dans le rapport de âme à Clove. Il y a des mises en scène qui sont beaucoup plus clownesques et qui le réduisent peut-être à un duo de clowns. Et nous, on a essayé d'être... un peu comme dans la vie, vous parliez d'une journée avec quelqu'un, bah moi je peux vous en parler aussi. Et il se passe plein de choses, et il y a des choses très drôles, et il y a des choses très tragiques, et il y a des moments où le personnage...
Oui, c'est vrai, il peut se passer beaucoup de choses.
Il pleure, et il a des crises d'angoisse, et puis le moment d'après, il rit en connivence avec vous.
Ouais, moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses.
Ouais, mais vous n'êtes pas la seule.
Ah ben voilà. Mais ça m'a tellement rappelé beaucoup de choses que parfois, quand il y a des gens qui riaient, je disais, mais c'est pas drôle, vous savez, c'est pas drôle.
C'est pas drôle et en même temps, c'est drôle aussi parce que d'abord, il y a des répliques qui sont très, très drôles.
Oui.
Qui sont très...
C'est-à-dire que...
Qui sont vraiment fameuses. Et
oui, c'est sûr.
Et puis, il y a un petit peu aussi de burlesque, dans, notamment...
Il y a la façon de jouer aussi, un petit
chez
peu,
Denis
quand même.
Avant, notamment dans le corps, un peu, puisque...
Oui, oui. Heureusement, d'ailleurs.
Parce que sinon, Beckett aimait beaucoup Buster Keaton et Charlie Chaplin, et il y a un peu de ça, quoi. Dans certains moments, dans le rapport à l'escabeau, avec ce personnage un peu handicapé.
Parce que dans les commentaires sur cette pièce, il y a beaucoup de gens qui parlent de comédie du désespoir.
Ouais.
Mais personnellement, alors peut-être que j'ai tort, hein, tu connais Beckett, tu connais Anne, tu connais.
Oui.
Personnellement, hein, parce que là, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu chez Beckett, c'est, alors encore un mot savant, mais tant pis, hein, c'est sa dimension onirique. C'est ça qui me plaît. Alors, il y a d'autres dimensions, mais c'est celle-là à laquelle je m'accroche. Parce que sinon, justement, il rend fantastique ce qui ne l'est pas, en fin de compte. Il y a une possibilité de sortir de la réalité complètement écrasante. Et justement, il y a quand même pas mal d'humour dans ses dialogues. Et je ne sais pas pourquoi, chaque fois, j'ai l'impression d'être dans le... Parfois, d'être dans le rêve, parfois. Alors, est-ce que
oui,
c'est... une c'est...
Non, oui. Enfin, moi, je dirais qu'il y a une dimension très concrète.
Oui, concrète.
Très humaine. Et en même temps, c'est très stylisé. Donc c'est pas comme dans la vie. Mais ça raconte... la vie, autrement.
Oui, mais il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, vous savez.
Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça, quand je dis concret, je sais pas, le terme onirique, je trouve un peu contradictoire par rapport à
par
ça.
Par rapport à concret ?
Ouais.
Ben,
parce que le tout, ou alors c'est un rêve concret.
Oui, c'est un rêve concret. Mais c'est pas ça. C'est que on est parfois obligé d'avoir du recul par rapport à
oui,
ce qu'on
dit. Oui, tout à fait.
Donc, automatiquement... on recule et le fait d'être obligé de reculer, c'est comme si on est quelque part et on navigue. À un moment donné, vous avez écrit, pour parler de citer Samuel, il dit qu'il est au bord
du gouffre. Ouais.
Mais quand même qu'il n'y tombe pas.
Ouais. Puis c'est une pièce qui a été, d'après ce que j'ai lu, assez compliquée dans sa gestation, puisque son frère est mort à ce moment-là. Enfin, ça a été une grande souffrance, cette l'écriture de cette pièce.
Ah oui, oui. Et les dialogues aussi, je trouve... Bon, vous dites que c'est très stylisé, je suis bien d'accord. Mais en même temps, je ne sais plus ce que dit Roger Blin, là, on voit ça derrière son truc. Il dit un truc qui me...
Ouais, tout à fait.
Il me dit... il n'y a pas de littérature plaquée, absolument pas. Faire exploser un langage quotidien où chaque chose est à la fois comique et tragique.
Tout à fait.
Là, je suis assez d'accord avec Roger Blin.
Oui, moi aussi. Ce que je veux dire par styliser, en fait, c'est que c'est la construction de comment dire, de c'est la façon dont c'est assemblé qui amène une chose stylisée dans le résultat.
Oui.
Parce que on est encore une fois, on n'est pas dans une, je sais pas, Si on est chez Tchekhov, par exemple, ça durerait pendant une journée ou un acte, et il y aurait une sorte de continuité chronologique. Là, on est dans la discontinuité. On a l'impression qu'en 5 secondes, on passe 2 heures, le personnage se réveille, et puis dit 2 secondes après, je vais aller me coucher. Il y a une action, et on a l'impression qu'il y a une ellipse. Enfin, voilà, donc... On est vraiment dans un temps discontinu.
Oui.
Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que c'est stylisé. C'est pas du théâtre naturaliste, c'est pas comme dans la vie. Mais ça raconte beaucoup de la vie et c'est des éléments qui sont juxtaposés les uns les autres.
C'est pour ça qu'il y a une partition quelque part.
Complètement.
Voilà. Hein, il faut bien que tout soit agencé. Enfin, je veux dire.
Oui.
Mais. On n'en a pas conscience, nous, spectateurs.
Non.
On n'en a véritablement pas conscience. Et après, quand on se dit, mais comment, en 2 heures de temps, finalement, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et pourtant, il se passe énormément de choses.
Voilà, il se passe plein de petites choses.
Plein de petites choses, oui.
Ouais,
mais
ouais.
Des petites choses qui prennent des dimensions extraordinaires. Quand on voit le Ham, qui est sur son fauteuil à roulette, moi j'aime bien le terme à roulette, quand on le voit qu'à un moment donné, alors... Et c'est un sale type, parce que quand il veut avoir affaire à son domestique, là, son fils adoptif, il le siffle, comme si c'était un toutou.
Oui.
Et en même temps, alors il se raconte un roman aussi, il paraît qu'il écrit un roman, et en même temps, il demande à Clough de lui apporter un chien, et c'est un chien en peluche.
Oui.
Et Mais... La façon dont il prend ce chien en peluche sur ses genoux, eh ben, c'est assez extraordinaire. On a l'impression que c'est un vrai chien. Et il lui parle. Enfin, il y a des moments comme ça qui sont complètement un peu surréalistes. Hein, il faut bien le dire. Hein.
Ouais.
Et bah, alors parlons des comédiens alors.
Donc il y a Denis Lavant qui joue Clove. Donc le fils adoptif, le valet, le factotum, comme vous voulez. C'est un personnage qui répond plus qu'il ne... En fait, il répond beaucoup aux injonctions de Ham. En fait, c'est vraiment Ham, donc, qui est joué par Frédéric Langens, qui lance les répliques, et c'est Clove qui les rattrape, ou qui lui redonne. Et on a l'impression que donc, c'est beaucoup un personnage qui est très actif physiquement, puisqu'il est tout le temps à droite, à gauche, il monte à l'escabeau, il regarde. C'est un peu comme ses yeux, ses bras, ses jambes, etc., puisque le personnage de Ham est aveugle et paralysé, donc il ne peut pas bouger. Donc Clough, c'est un peu comme ses membres, en fait. Mais Ham, lui, parle beaucoup, quasiment beaucoup, beaucoup de textes, et des grands monologues aussi, à tout passage sur l'histoire qu'il raconte, qu'il invente, le roman... un monologue assez sombre au milieu de la pièce également. Et donc lui, il est joué par Frédéric Langens, qui est un
grand
acteur également, qu'on voit beaucoup dans le théâtre public.
Ouais.
Et puis les parents, ce sont deux acteurs plutôt âgés. J'ai tenu qu'ils aient l'âge des rôles, en fait.
Ouais.
Et qui sont... dans cette mise en scène, enfin dans ce qu'on a cherché à faire, lumineux.
Assez lumineux. C'est vrai.
Beau, quoi.
Ils sont même pas... C'est pas des caricatures.
Surtout pas des caricatures. Donc, ils sont pas grimés en blanc, ils n'ont pas de... comme ça peut l'être parfois dans les mises en scène, ils n'ont pas de bonnet de nuit, ils jouent pas aux vieux, parce que ce sont vraiment des personnes qui ont l'âge des rôles. Et surtout, ça les fait beaucoup rire, cette histoire d'être dans les poubelles. Les acteurs, il y en a qui ça fait pas rire du tout, mais eux ça les fait beaucoup rire, donc ils sont très
en même temps c'est une façon de dire, c'est une façon de dire vous mettez vos vieux dans les poubelles, hein, ça
voilà,
a un peu de ça quand même, hein.
Mais justement, c'est que des gens ça fait pas du tout rire quand et puis
et
pour moi c'est un peu comme un duo d'amoureux, un peu comme quand ils étaient jeunes, ils parlent beaucoup de leur souvenirs sur le lac de Côme quand ils étaient amoureux et puis avant leur accident de tandem, etc. Ils n'ont plus de jambes maintenant.
Oui, vous ne pouvez pas y penser.
Voilà.
D'accord.
Donc voilà, ces 4 acteurs merveilleux. Voilà.
Bah oui, et puis ce qui est pas mal, c'est le contraste entre Ham et Clough,
oui.
Je trouve. Hein. Il y a Ça résonne bien le contraste. Oui. Ils sont pas du tout sur la même longueur
non,
d'onde.
Pas du tout.
Et c'est ça qui est assez attrayant
oui,
dans le
tout à fait.
Je trouve dans la pièce.
Oui, c'est un duo qui on l'a vu tout de suite pendant les lectures dès le début quoi. Qui voilà, il y a des mystères parfois, il y a des comédiens qui se connaissent très bien, qui sont très amis à la vie dans la vie et ça fonctionne pas très bien sur le plateau. Et puis il y a des gens comme ça qui sont deux personnalités fortes, singulières, qui se ressemblent pas du tout, ni physiquement, ni dans leur façon de penser, ni dans la vie. Et pourtant sur le plateau, ça se passe merveilleusement bien et ça surtout ça fonctionne bien quoi. Ça, c'est deux singularités aussi parce que ce sont deux acteurs très singuliers.
Oui. Quand vous dites singulier, c'est-à-dire ?
Eh ben. Dans le corps, dans la voix, dans la façon d'être, ils sont particuliers.
D'accord.
Ils ne sont pas des acteurs conventionnels.
Ah,
l'un et
d'accord. Pas conventionnels, c'est-à-dire que il faut apprendre à les connaître, quoi. Je veux dire, ça ne va pas de soi, quoi.
Oui, oui.
D'accord.
Mais au sens positif du terme.
Au sens positif du terme.
Pour moi, c'est une qualité.
Oui, tout à fait. Et la scénographie, alors.
Alors la scénographie dans cette Donc là, ce sont trois hauts murs. Donc là, on respecte les didascalies de Beckett. Trois pans de murs, comme ça, avec des hautes fenêtres. Mais les matériaux sont pas du tout... sont plutôt contemporains, dans le sens où c'est du bois et du Saint-Hilaine, c'est-à-dire des matériaux de construction, quoi. Un peu bâche plastique, comme ça. Et plutôt plus léger que dans certaines mises en scène où c'est un peu du béton, quoi. Mmh. Enfin, gris béton. Nous, on a voulu quelque chose de plus contemporain dans les matériaux, plus léger aussi, et puis une lumière très blanche, un peu zénitale, comme ça, un peu comme les lumières qu'on fait maintenant, quoi, les lumières LED. Donc c'est pour ça, donc on a joué un peu sur ce...
Oui, il y a quand même des contrastes. Par
des
exemple,
contrastes,
quand
ouais.
on rentre dans la... au début,
oui.
Ce qu'on voit qui attire l'œil, c'est ce grand drap
oui.
qui recouvre Ham et le fauteuil.
Oui.
Même on se demande qu'est-ce qu'il y a en dessous.
Oui.
Et moi, ça me fait penser à certains catafalques que
ouais,
j'en ai déjà vu dans les églises. Avec, ça m'impressionnait beaucoup. Mmh. Mais il est beau ce drap.
Oui, il est beau. Oui.
Hein, il étincelle sur une scène qui est, on dirait, noir-gris. Il étincelle.
Ouais.
C'est voulu, évidemment. C'était
ouais,
dans la didiscalie ou
Il y a un drap, mais il n'est pas forcément comme ça. Il n'est pas forcément de cette couleur, etc. Quoi. Donc, on suit les didascalies, mais on les réinterprète. C'est vraiment, pour nous, comme dans une partition, la liberté dans la contrainte. Donc, la contrainte, ce n'est pas forcément négatif.
Mmh.
Et on peut tout à fait être libre tout en étant content.
On dit même que la contrainte libère.
Tout à fait.
Ah bon ? Bah alors, est-ce qu'il y a une bande-annonce ? Ouais, on va écouter la bande-annonce. Même.
Fini. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir.
À moi de jouer. Peut-il y avoir misère plus haute que la mienne? Sans doute, autrefois, mais aujourd'hui, mon père, ma mère, mon chien, tout est absolu. Plus on est grand et plus on est plein et plus on est vide.
Je te quitte.
Ça avance.
Alors ça, c'est une bande-annonce, c'est un teaser, c'est le
ouais.
son d'un teaser, donc
ouais.
c'est des répliques qui sont juxtaposées, mais c'est pas... Elles sont assemblées de manière pour l'occasion. Elles sont
oui.
pas... C'est des petits...
Elles, oui, c'est... Elles se suivent pas...
Elles se suivent pas dans la pièce.
D'accord, d'accord, d'accord.
C'est pas un dialogue, en fait.
Oui, tout à fait, oui. Mais il n'y a pas vraiment de musique dans la pièce.
Il n'y a aucune musique.
Hein, c'est ça, hein. Non. C'est rare, hein,
la musique. Ouais. Et puis Beckett n'est pas à ce qu'il y ait de la musique.
Comment ?
Beckett n'y tenait pas.
Ah, il n'y tenait pas.
Hmm. Ouais, donc évidemment, il y a le silence.
Vous êtes trop jeune pour l'avoir rencontré, évidemment.
Oui, oui, oui.
Mais vous l'avez rencontré à partir des textes.
Bien sûr.
Ouais. C'est vraiment un. C'est. Vous êtes fan de...
Oui, et de manière assez inattendue, parce que pour moi, comme pour beaucoup, en tout cas, le théâtre de Beckett était un petit peu, je dirais pas daté, mais en tout cas, les représentations qu'on en avait étaient un peu toujours les mêmes, manière très grise, très, très triste tout le temps, avec cette injonction des didascalies qui me faisait très peur. Et en fait, c'est vraiment en travaillant sur, sur Cap au Pire, que pour moi, ça m'a ouvert des horizons, notamment dans une proposition d'un théâtre plutôt exigeant et radical, qui part du silence et qui permet une expérience à la fois de spectateur, de metteur en scène, d'acteur, etc. Et donc, on a poursuivi dans cette veine avec La Dernière Bande. Mmh. Et là, j'ai découvert un Beckett beaucoup moins formaliste que le cliché que j'en avais, beaucoup plus contemporain dans les thématiques qu'il propose, et comme une sorte d'entomologiste de l'humain, quoi. Et ça, je m'y attendais pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a poursuivi ce cycle qui n'en était pas un à la base.
Ouais.
Avec notamment, évidemment, Denis.
En attendant Godot, vous l'avez monté
Non, je ne l'ai pas monté en attendant Godot.
Vous avez envie
un
de
jour,
le faire
on montera en attendant Godot.
Oui, bah, évidemment, forcément. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
C'est, voilà. Mais fin de partie, c'est...
C'est la pièce que vous préférez de Beckett.
Pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les rencontres avec des pièces comme ça, qui sont quand même des monuments... Il faut avoir une vision et avoir quelque chose à raconter de personnel, quoi. Et en tout cas, en relisant cette pièce il y a 2-3 ans, qu'avant je ne comprenais pas cette pièce, enfin je la comprenais comme tout le monde, mais j'avais pas forcément de... Il y avait des choses que je comprenais pas, bon bref. Et là, ça m'a touché à un endroit nouveau. Et je pense que c'est à partir du moment où on arrive à ça que... C'est drôle parce qu'en ce moment, il y a En attendant Godot, mis en scène par Alain Françon.
Oui, vous l'avez vu ?
Je ne l'ai pas encore vu. Je vais y aller en mars, mais j'ai lu une interview de lui où il dit pareil, il dit que... J'ai monté fin de partie aussi, il a monté... Et il dit que Godot, jusqu'à il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un événement dans sa vie... qui fait qu'il l'a relié à la pièce et que du coup ça lui a donné envie de la monter.
Ah, d'accord.
Et je pense que c'est souvent comme ça. Enfin, il vaut mieux que ça soit comme ça.
Bah, il faut être poussé par quelque... Ouais, il y a un moteur, oui, je veux dire.
Voilà. Ouais, ouais.
Et il y a une... Vous dites que pour vous, il ne faut pas faire une mise en scène de type psychologique.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà. Est-ce que vous pouvez expliciter ce...
Non, ça veut dire qu'il faut des acteurs qui ont un rapport au texte et à la langue très fort, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à la fois un langage du quotidien, enfin ce que dit Roger Blin, quoi. Enfin, quelque chose de... Mais en même temps, il faut des acteurs très forts. Enfin, quand je dis très forts, c'est-à-dire presque comme des instrumentistes, qui ont un timbre de voix particulier, qui ont une façon de phraser particulière, un peu comme des chanteurs ou des musiciens, etc. C'est pas comme, c'est pas du cinéma, quoi. C'est pas passe-moi le beurre. On peut être très juste.
Non, c'est une interprétation, c'est-à-dire voilà. que
c'est comme Mozart. Quand vous dites un texte poétique.
Oui.
Il faut savoir dire un texte, voilà. Et des fois, vous avez des acteurs, quand je dis psychologique, c'est qu'ils vont psychologiser le rapport, essayer de l'expliquer et dire voilà, Ben toi, tu me l'as dit comme ça, donc moi, je vais penser que je vais te le répondre comme ça. Et là, c'est pas possible, c'est pas du tout l'écriture de Beckett.
C'est très conventionnel, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire.
Et du coup, et puis nous, on travaille beaucoup comme ça. C'est pour ça que je parle de stylisation. C'est que, par exemple, si un jour l'acteur Frédéric est un petit peu dans une couleur un peu plus sombre, ben Denis va répondre un peu d'une autre façon, ou il va être plus lent. Bah Denis va coller plus, ou il va être plus rapide, bah Denis va laisser plus de temps. Il faut des acteurs qui soient comme très souples.
Très réactifs.
Et très réactifs, et du coup très, je dirais, virtuoses, mais au sens intéressant du terme. Pas faire des effets, quoi.
Mais oui.
Mais comme, et donc, c'est pas commun, quoi. Et on est beaucoup, le jeu repose beaucoup, et au cinéma et au théâtre aussi, je trouve, un peu, uniquement sur la psychologie. C'est-à-dire, ouais. Pour expliquer ça, or là, on peut pas expliquer.
Non, c'est vrai.
Donc il faut comprendre. Il faut comprendre ce que
raconte. Il faut le ressentir.
Le texte. En fait, c'est comme si le texte il est au premier plan. Vous voyez, très souvent, on nous a dit ah c'est formidable, on entend parfaitement le texte, mais parce que on le fait entendre. Le souci premier, c'est je me souviens qu'il y avait une interview de Michel Bouquet, d'ailleurs au théâtre de l'Atelier il y a 25 ans, quand il a joué fin de partie. On disait, mais c'est quoi la plus grosse difficulté du texte de Beckett ? Il dit, bah, déjà de dire les mots. Mmh. Et moi, je dirais, c'est pareil. Si vous dites déjà les mots, et dire les mots, ça ne veut pas dire annoncer les mots, ça veut dire être traversé par les mots, traversé par la langue. Et après, de là découle l'émotion, tout ce que vous voulez. Par exemple, vous dites, ah, il est très cruel avec Love et âme, etc. Âme est très cruelle avec l'homme, pas du tout ce qu'on joue. On se dit jamais, là, tu dois être très cruel avec âme, parce que sinon, et il va te répondre de manière... Non, pas du tout. Et les seules injonctions qu'on a, c'est, comme en musique,
il faut que
les didascalies, plus rapide, plus lent. Là, il y a une pause. Les pauses, elles sont très importantes parce que ça fait redescendre. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a une intensité, ça redescend. Et on repart sur autre chose. Alors que si on enchaîne, ça continue comme ça, et là ça devient psychologique.
Ah, d'accord.
Vous voyez ?
D'accord.
Et stylisé, c'est un peu comme une partition, quoi. Comme dans... Vous voyez ? Ça laisse le temps de. Enfin, je caricature, mais. Voilà.
Y a une petite chanson, je ne sais pas, parce que malheureusement, l'heure tourne, et j'ai mon ami, là, parfois, qui écoute, Jean-Marie Blanche, qui écoute Deleuze.
Ouais.
Et c'est une chanson, un poème qu'il a écrit et qui est chanté par Laurent Francomano. On a peut-être juste le temps de l'écouter. Et on va dire après où ce se passe.
Oui.
Un petit homme s'ennuie à jouer les prophètes, à lancer dans la nuit des oiseaux à fléchettes. Quand sa poule très cool enfile des bas de soie à l'ombre de la vie exploitée de devis, cernée par le devoir au sein des biens nantis, jamais nous ne pourrons ensevelir la foi. Regardez-le, puissant navire, dans ses dunes de sable, dans ses sirènes à l'horizon, dans ses sirènes à l'horizon. Aux embruns de l'envie qui parfume les airs, des gardiens de l'amour perdus dans le désert, aux retrouve à ne penser qu'à soi, à cœur perdu pour nos ancêtres, un tantinet de vin. Exécuteur public des grands mots de demain, d'allumer dans les cieux l'étoile d'autrefois. Regardez-le, puissant navire, dans ses dunes de sable, dans ses sirènes à l'horizon, dans ses sirènes à l'horizon, au coucher du soleil, dans les ombres inlassables, nos graffitis d'amour sur nos châteaux de sable. On chante les couleurs des reflets de la vie, le cormoran du ciel s'envole et se reflète dans une nuit sublime, étoiles et planètes, le petit homme arrive, et puis il est parti. Regardez-le, dans ces dunes de sable, dans ces sirènes à l'horizon, dans ces sirènes à l'horizon.
Et dans quelques instants, bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation. On rappelle la pièce quand même et le lieu.
Oui, alors allez-y.
Grande partie de Samuel Beckett dans le très joli théâtre de l'Atelier, place Charles Dullin, jusqu'au 16 avril. Et donc il faut aller sur le site. Ça change d'horaire, des fois c'est à 19h, des fois c'est à 21h. Et c'est pas forcément tous les jours parce qu'on prolonge en raison du succès. Et donc il faut aller sur le site du théâtre de l'Atelier pour voir toutes les dates et tous les horaires. Voilà.
Merci. Voilà.
Merci.
Merci.